Chapitre 5. Mademoiselle Plouvel, en avançant vers Paris, songeait à la foule des misères morales ou physiques sur lesquelles elle s'était penchée avec pitié et à tant de courage défaillant qui avait recouvré des forces au contact du sien. Mais jamais son grand cœur n'avait ressenti une pitié plus profonde. La nature d'Aliette lui était sympathique par tous ses côtés, même par ses défauts, et ce désemparement de tant de facultés délicates ou rares, qui, sollicitées par l'esprit du bien, aspiraient à vivre, la remplissait de compassion. Elle descendit dans un hôtel de la rue de Fleurus et envoya un mot à Mademoiselle de Sarzac pour lui annoncer son arrivée. Ce même jour, Aliette subissait un nouvel assaut qui ébranlait toutes ses résolutions. Madame de Sarzac, en s'adressant à son cœur, lui parla longuement, avec une émotion calme, du bien qui résulterait de son union avec M. Lassan. « Beaucoup de mariages se font ainsi, » ajouta-t-elle avec conviction. Le fiancé, prévenu loyalement des embarras d'argent de la famille dans laquelle il veut entrer, résout le problème. Quand un homme est sincèrement épris, que lui importe le reste ? Aliette se demandait si M. Lassan, mis au courant du vol dont elle avait résolu de ne jamais parler à sa mère, passerait facilement sur le reste. Elle savait, pour l'avoir entendu dire à M. de Sarzac, qu'il appartenait à la race de ceux qui, toute leur vie, côtoient l'abîme sans y tomber par un fait brutal que nulle subtilité ne peut couvrir. Elle écoutait silencieusement sa mère qui, avec beaucoup de tact et d'habileté, transposait résolument la discussion sur le terrain du sacrifice et de l'abnégation. Elle concédait que M. Lassan pourrait être plus honnête, mais que sa fortune, bien ou mal acquise, serait entre les mains d'Aliette un moyen de salut pour les siens, peut-être de rapprochement entre la baronne et son mari, et enfin un levier pour le bien, car une femme aimée est toute puissante. Elle parlait avec calme, mais avec chaleur, car, réduite aux abois, elle eût voulu presser les événements, et il y avait beaucoup de sagesse dans la tactique adoptée. Aliette, la tête appuyée languissamment sur sa main, perdait la lucidité de ses idées et se sentait défaillir. Elle répondit d'une voix éteinte « Eh bien, je vous promets d'examiner encore, de réfléchir. » Cette concession transporta de joie la baronne, qui s'empressa d'écrire à M. Lassan « Venez me voir demain matin. Ma fille ne recule plus à l'idée de se marier, et vous savez si je plaide chaleureusement votre cause. Avec un peu d'adresse et beaucoup d'amour, vous vaincrez ces dernières répugnances, qui sont, comme je vous l'ai dit bien des fois, celles d'une jeune fille trop éprise de son indépendance. » Aliette, effrayée du mot que la fatigue et le découragement lui avaient arraché, s'enferma dans sa chambre où elle trouva le billet et la lettre de Mademoiselle Plouvel qu'on avait posée sur son bureau sans la prévenir. Par suite d'une erreur de poste, la lettre de Mademoiselle Thérèse ne lui était pas encore parvenue et ce fut avec un sentiment de délivrance qu'elle lut les pages que l'affection de sa vieille amie lui écrivait d'un premier jet. Cet appel au devoir, cette élévation d'esprit qui la transportait si loin du courant malsain dans lequel elle se débattait, la jetèrent dans une profonde et salutaire rêverie. Elle s'endormit calmée en se répétant avec un inexprimable soulagement « Demain, je la verrai, elle me sauvera !» À 8 heures, le lendemain matin, elle entrait dans la chambre de Mademoiselle Prouvel qui lui dit en la serrant dans ses bras « Ah, ma pauvre enfant, comme vous avez souffert depuis que nous ne nous sommes vus. Voilà un visage qui m'en apprend bien long. »« Venir exprès pour moi, » lui dit Aliette avec émotion. « Voyez le grand coup d'état. Mon Dieu, oui, tout exprès. Allons vite, parlons de vous. Et ce mariage ?» Mademoiselle de Sarzac la mit au courant de la situation, puis s'écria d'un ton découragé « Que faire, quand je m'entends répéter qu'il m'appartient de sauver les miens, de leur rendre l'aisance par un sacrifice qui me fait horreur ?»« Et qui serait inutile, » répondit nettement Mademoiselle Plouvel. « Inutile ? Assurément, vous imaginez-vous, ma pauvre enfant, que votre joli mari, une fois parvenu au but, n'enverrait pas promener belle-mère et beau-père ? Ah, Dieu si, allez !» En ce moment, il fera ce que voudra Madame de Sarzac, mais plus tard. Permettez-moi la franchise la plus complète, car le cas est grave. Jamais M. Lassan ne satisfera absolument les goûts de dépense de votre mère. Alors, qu'arrivera-t-il? Vous le voyez vous-même, sans que j'aie besoin d'insister. »
C'est probable, en effet, répondit Aliette.
Quoi, n'avez-vous pas pensé vous-même à ce résultat inévitable?
Un peu d'abord, puis tout s'est brouillé dans ma tête.
Pauvre mignonne, cela devait être, mais nous allons rendre à vos yeux la netteté de la vue. Jamais, sachez-le, jamais, sous aucun prétexte, il ne faut accepter un mariage auquel il manque la base nécessaire, principale, qui est l'estime.
Nous sommes si peu estimables nous-mêmes, murmura la jeune fille avec accablement.
Ne parlez pas ainsi. Qu'avez-vous à vous reprocher, vous, personnellement, mon Aliette? Vous êtes malheureuse, puis circonvenue de toute façon. Des dangers vous entourent et vous les évitez. N'êtes-vous pas très digne et très fière?
Jusqu'ici, oui, mais combien de temps résisterai-je? Répondit la jeune fille avec amertume. Je rougis des tentations qui m'assaillent quelquefois. Après un de ces succès que j'obtiens souvent, quand je suis entourée d'hommes qui, si je le voulais, me laisseraient clairement entendre ce que vous devinez, je suis horriblement blessée. Et pourtant, je pense que cette vie-là, avec un amour sincère, serait moins affreuse que la mienne. Eh bien, n'est-ce pas méprisable, cette pensée ?
Mademoiselle Thérèse l'entoura de ses bras et répondit avec un beau sourire ému.
Pauvre, pauvre mignonne, je vous aime encore plus avec vos défaillances et vos contradictions que si vous étiez impeccable. Mais laissons cela. Cet homme, mon Aliette, se marie odieux, il faut obtenir son renvoi le plus tôt possible.
J'en ai parlé et vous voyez que je ne suis pas écoutée.
Il faut recommencer dès aujourd'hui, dès ce matin. Vous avez fléchi hier, il faut revenir là-dessus immédiatement. Que la situation soit nette. Voyons, vous avez beaucoup de volonté, reprenez-vous vous-même.
Je n'ai qu'un moyen pour obtenir le renvoi définitif de M. Lassan, c'est de menacer de mon départ.
Si c'est le seul moyen, employez-le. Faites-le sans emportement, avec autant de respect que possible, mais aux circonstances exceptionnelles, il faut des agissements exceptionnels.
« Allons, répondit-elle en se levant, j'aime mieux agir à l'instant et je vais trouver ma mère. »«
C'est cela, nous nous reverrons dans l'après-midi si vous êtes libre, car j'ai beaucoup à écouter et beaucoup à dire. »«
Oui, répondit Aliette mélancoliquement, de mes belles résolutions prises en Bretagne, qu'est-il advenu ?»«
Plus que vous ne croyez sans doute, dit Mademoiselle Plouvel en souriant. » Car voilà une réflexion qui, sans elle, n'existerait pas. Bien que, très habituée aux conflits et aux tiraillements, Aliette redoutait infiniment la scène qu'elle allait avoir avec sa mère. Elle traversa lentement le jardin du Luxembourg et rentra chez elle, le cœur battant de crainte et de tristesse. En ouvrant la porte du salon, elle fut désagréablement surprise de se trouver en face de M. Lassan qui attendait la baronne. Le premier mouvement de la jeune fille fut de lui adresser un bref salut, puis de traverser l'appartement sans s'arrêter. Le second fut de s'asseoir tranquillement et d'agir avec une prompte décision. M. Lassan, à qui on avait écrit de tout espérer, vit dans ce mouvement la confirmation de son espoir, peut-être un dénouement précis. Sous l'influence de cette erreur, il commença une phrase qui, laissant entrevoir sa pensée, irrita Mademoiselle de Sarzac et la fit parler avec sa brusquerie habituelle. Elle l'interrompit en levant la main par un geste gracieux qui lui était familier. « Il est étrange, monsieur, que vous n'ayez pas remarqué ma froideur à votre égard. »«
Mon Dieu, mademoiselle, mais si, je l'avais remarqué, il n'en pouvait être autrement. Seulement... »
« Alors, pourquoi êtes-vous ici ?»
Elle eut cherché longtemps avant de découvrir un moyen plus parfait pour blesser au vif un homme très infatué de lui-même et leurré par la baronne d'espérance qu'il croyait sur le point de se réaliser. Grâce à l'adresse vigilante de sa mère, qui craignait un éclat, elle n'avait pu, depuis bien des semaines, avoir de complet tête-à-tête avec lui. Surexcitée par l'antipathie qu'il lui inspirait et par sa conversation avec Mademoiselle Plouvel,
elle allait droit au but, sans réflexion. « Vous ménagez peu votre entrée en matière, mademoiselle, » lui dit-il d'un ton froissé. « Qu'ai-je aménagé, monsieur ? » répondit-elle avec hauteur. « Si je n'ai pu m'expliquer ouvertement, mon attitude ne vous a-t-elle pas toujours laissé entendre ma pensée ? Et je ne sache pas que vous ayez profité de mes avertissements. C'est contre mon gré que vous me poursuivez d'attentions qui ne sont et ne peuvent être qu'un sujet de déplaisir pour moi. » En vérité, répondit M. Lassan avec ironie, le don d'observation de Mme de Sarzac a été bien singulièrement égaré, car hier encore, elle m'écrivait. C'est un malentendu, interrompit vivement Aliette. Mes sentiments n'ont jamais varié à votre égard et ne varieront jamais. Je vous prie donc de cesser des visites qui, dans les circonstances présentes, deviennent très pénibles. C'est fort, répliqua M. Lassan, dont le regard brillait d'une colère qu'il s'efforçait de modérer. Elle l'observa, un peu interdite, en se demandant quel sens il fallait donner à cette réponse, et elle eut l'intuition qu'il devenait subitement son ennemi. Mais cette idée, loin de la porter à la prudence, la rendit plus raide et plus cassante. Elle se leva en disant « Je crois, monsieur, que l'entretien est terminé. » « Pas encore, mademoiselle, car enfin, vous ne supposez pas que je puisse accepter un renvoi aussi blessant sans aucune protestation. De quel droit me traitez-vous avec tant de mépris ? Ce droit est usurpé, je vous l'affirme. Vous oubliez un peu trop que nous pouvons marcher de pair sous bien des rapports. » Cette phrase, grosse de sous-entendu, et le ton incisif qui la rendait plus blessante, firent défaillir Aliette. Au point de vue de l'honorabilité, elle était donc mise au rang de l'homme méprisable qui lui parlait. Il lui fallut un effort surhumain pour ne pas se jeter en pleurant dans un fauteuil, et pendant quelques instants, elle resta immobile et silencieuse dans la crainte de trahir son trouble. M. Lassan vit que le coup avait porté, et bien que son amour pour elle fût un mélange de sentiments égoïstes, il se radoucit et passa subitement à un autre ton. « Vous êtes bien jeune, mademoiselle, et il est naturel que votre inexpérience vous égare. Mais vous saurez un jour que l'amour d'un homme sincère n'a rien d'offensant. Et je vous aime, je vous en donne ma parole, avec toute la sincérité d'un cœur très ardent. » C'était la première fois qu'il lui adressait une déclaration franche et directe. Jamais il n'avait inspiré plus de répulsion à la jeune fille qui se sentait humiliée, amoindrie, en écoutant les paroles dans lesquelles il avait mis assez de chaleur pour qu'elles perdissent leur banalité. « Si, cet amour m'offense !» répondit-elle en se dirigeant vers la porte. Une exclamation irritée de M. Lassan l'arrêta et, en le regardant, elle fut presque effrayée de son expression mauvaise. « Vous vous rappellerez notre entretien, mademoiselle !» lui dit-il d'une voix brève. « C'est une menace ? C'est ce que vous voudrez. » Elle répondit par un léger mouvement plein de mépris et lui montra la porte. Mais, en ce moment, la baronne entra et il lui dit d'un ton menaçant « J'ai répondu à votre appel, madame, et je puis me féliciter de ma réception. Mademoiselle me met à la porte dans des termes qui empêcheraient toute réconciliation, lors même qu'elle en eut un jour le désir. » « Désir que je n'ai pas et n'aurai jamais !» répondit Aliette, irritée par l'insolence de la phrase et par la réticence qu'elle croyait y découvrir. Sans attendre la réponse de la baronne, M. Lassan salua avec une politesse exagérée et disparut. Madame de Sarzac demeura un temps assez long sans prononcer un mot. Elle avait des raisons secrètes pour que sa consternation dépassât de beaucoup sa colère, et malgré son assurance habituelle, elle ne put dissimuler son trouble extrême. « Peut-être m'as-tu perdu, » dit-elle à sa fille. « Perdu ?» répéta Aliette avec étonnement. « En quoi cet homme peut-il nous faire du mal ? » ?»« Il se vengera. » »« Pour se venger, il faut en avoir les moyens. Comme toujours, je ne vous comprends pas, puisque vous ne me parlez jamais ouvertement de vos préoccupations. » Et voilà celui que vous vouliez me voir épouser, un homme assez vil, assez lâche pour menacer des femmes. J'ai en moyen de revenir sur cette maladresse, murmura Madame de Sarzac, qui poursuivait son idée sans écouter sa fille. Aliette vint se placer auprès d'elle, en pleine lumière, afin que sa mère vît bien son expression résolue, et répliqua avec énergie « Il n'y a aucun moyen à employer pour que je devienne sa femme, aucun. Ne conservez pas d'espoir, car il n'y en a pas. » Elle s'attendait à une explosion, mais la baronne, après l'avoir regardée attentivement, se contenta de répondre « Je le vois, et Dieu veuille qu'un jour tu ne t'en repentes pas. » Ce dernier mot laissa Mademoiselle de Sarzac sous le poids d'un malaise profond et indéfinissable. Elle déjeuna seule, car sa mère était sortie précipitamment, en déclarant qu'on ne la verrait pas avant le dîner. En traversant de nouveau le jardin du Luxembourg, recouvert d'une légère couche de neige, Aliette s'arrêta pour réfléchir en face de la tristesse extérieure qui la frappait. Les passants jetaient un coup d'œil sur la jeune fille, dont la tête, à moitié enfouie dans une épaisse fourrure, attirait les regards par sa finesse. Deux ou trois hommes qui la reconnurent la saluèrent sans qu'elle vît leur salut. Ils passèrent avec un léger sourire, croyant peut-être à un rendez-vous galant, pendant que toutes les facultés d'Aliette se concentraient dans le rêve très sain de donner à sa mère une vie honnête et sûre. Une main affectueuse qui se posait sur son bras la sortit de ses absorbantes pensées. « Je me suis mise à errer sous ces arbres, lui dit Mademoiselle Plouvel, en attendant l'heure à laquelle vous vous étiez annoncée. Je me disposais à rentrer quand je vous ai aperçue. Voulez-vous marcher avec moi dans une allée écartée où nous pourrons causer ?»« Oui, allons, répondit-elle. Le temps est doux et ce jardin est une ombre de la nature que vous me reprochez presque de trop aimer. » Mademoiselle Thérèse écouta avec attention le récit des scènes qui s'étaient passées le matin. « Je regrette votre attitude blessante vis-à-vis de M. Lassan, Aliette. » « Sa vue m'exaspérait. » « Je le comprends, mais il eût été préférable de le mettre à la porte avec quelques égards, ou du moins de la politesse. » « Cet homme a pesé d'un tel poids sur ma vie depuis 2 mois que je ne regrette pas mon attitude vis-à-vis de lui. » C'est un soulagement de lui avoir montré mon mépris, ajouta-t-elle avec passion. Oui, oui, vous êtes jeune. Je regrette. Enfin, c'est un fait accompli et nous voilà débarrassés de lui. Beaucoup plus aisément même que je ne l'aurais cru et je devrais être satisfaite. Mais le trouble et le dernier mot de ma mère me laissent dans l'angoisse. Quelle est votre pensée sur tout cela ? « Il est bien difficile d'avoir une opinion, » répondit évasivement Mademoiselle Plouvel, dont l'idée était néanmoins très arrêtée. Elle s'attendrissait en elle-même sur le sort de Mademoiselle de Sarzac, qu'elle voyait dans l'avenir, entourée de honte que la jeunesse d'Aliette ne pouvait prévoir. Elle songeait également que l'incident de ce mariage refusé, qui, dans toute autre vie, eût été bien banal, deviendrait probablement une source d'ennuis et de chagrin. Alors, elle sentit croître en elle le désir très ardent de lui donner un point d'appui absolument ferme qui pût l'empêcher de défaillir dans les heures désespérées. « D'après vos lettres, Aliette, j'ai compris que vous étiez restée au seuil des choses au lieu d'y pénétrer plus avant par la pratique. Cette vie et ce pari tuent les meilleures pensées, les plus vives aspirations, » répondit-elle avec découragement. « Voilà ce que je ne puis comprendre, » répliqua Mademoiselle Plouvel en s'appuyant affectueusement sur le bras de la jeune fille. « Je serai chez les Patagons, les Mormons, où vous voudrez, que je découvrirai Dieu chez ces pauvres gens. » Et elle la ramena doucement vers les idées qui étaient, à ses yeux, le fond, l'essence même de la vie, puisant dans l'élévation de sa foi des pensées qui allaient droit aux aspirations de Mademoiselle de Sarzac et leur rendaient toute leur vivacité première. Longtemps, Aliette l'écouta avec l'impression dilatante d'un être qui, rentré un instant dans son élément naturel, respire enfin avec facilité. « Vous ne serez jamais, lui disait Mademoiselle Plouvel, au nombre de la plupart des gens que je connais et qui ne comprennent rien aux choses divines. » Ils dispersent leurs pensées, leurs sentiments, leurs actions sur les grands chemins, sans les attacher dans un même lieu. Ah, les pauvres ! Je les plains, car arrivés au soir de la vie, ils cherchent vainement ce que leur négligence a mêlé à la poussière des routes. Il y a en nous un besoin inné d'unité. Où est-elle, cette unité, sinon en Dieu ? En faisant converger sentiments, pensées, actes vers ce grand centre, nous la trouvons infailliblement. Quelle singulière faute, mon Aliette, de ne pas vouloir réunir en un tout homogène les actions multiples d'une longue existence. Alors, pourquoi agir? Pourquoi vivre? C'est le vide le plus absolu. N'oubliez pas ce que je vous dis là, s'il vous plaît. « Soyez tranquille, » répondit Aliette en souriant de l'exubérance de son amie. La parole chaude de Mademoiselle Thérèse, la netteté et la profondeur de ses croyances dissipaient la confusion des idées de la jeune fille. En l'écoutant, elle regardait devant elle et, à partir de cet instant, elle aima la froidure des neiges qui, contrastant énergiquement avec la vie de la parole humaine, en faisait mieux ressortir la force. Dans ce contraste, l'esprit de Mademoiselle de Sarzac voyait l'expression heureuse et poétique d'une grande pensée. « Pourquoi, s'écria-t-elle, me suis-je laissée démonter avec tant de facilité? Comme on se soutient peu, je me croyais sûre de moi en vous quittant. Quoi? Se soutenir sans moyens pratiques? Mais ma pauvre mignonne, c'est impossible. Les assauts de la vie sont rudes et nos propres forces ne sont rien. Allons, il faut profiter de mon séjour ici pour franchir le pas qui sépare la théorie de l'action. » « C'est mon désir, » répondit Aliette. « Mais vous savez que je ne connais personne qui puisse achever de m'instruire. »« Qu'à cela ne tienne, je vous mettrai dès demain, si vous voulez, en rapport avec un guide spirituel excellent. C'est un homme remarquable et, de ce pas, je vais chez lui. »« Alors, à demain, car voici l'heure où je dois rentrer pour mes leçons. » »« Donnez des leçons avec votre talent, votre nature et le reste. » »« Enfin, il le faut. À demain. » répéta-t-elle en la serrant dans ses bras avec expansion, sans se soucier de l'étonnement des passants. Avec Mademoiselle Plouvel, qui communiquait aux autres son ardeur et son activité, il était difficile de ne pas agir promptement, et son séjour à Paris fut une époque décisive dans la vie d'Aliette. Mais elle ne voulut pas entrer, à l'insu de sa mère, dans le sentier battu de la religion qui attirait ses facultés. Au premier mot, la baronne s'emporta, l'accabla de reproches et pensa à Mademoiselle Plouvel. « Il faut que cette odieuse femme soit à Paris, » s'écria-t-elle, « car il n'était plus question de toutes ces absurdités depuis notre retour ici. »« J'y pensais beaucoup, » répondit Aliette avec calme. « Pourquoi en parler, puisque nous ne pouvons pas nous entendre ? Toutefois, d'après les conseils même de mon ami, je n'ai pas voulu vous laisser ignorer ma décision. » « Ainsi, Mademoiselle Plouvel est ici, » insista Madame de Sarzac. « Oui, depuis quelques jours. Avec ton caractère ridiculement indépendant et désagréable, je ne puis rien empêcher, » répondit la baronne. « Mais tous mes voeux, tous mes désirs, sont pour que tu te repentes un jour d'avoir cédé à l'influence d'esprits étroits et puérils dont tu découvriras infailliblement la faiblesse et la vilenie si tu ne deviens pas toi-même à peu près imbécile. » « Tu te trompes grossièrement si tu crois que ces gens-là valent mieux que d'autres. » Aliette courba la tête devant l'orage sans répondre. Mais sous l'influence du souffle profond qui passait sur elle, elle se disait que tous les hommes, fussent-ils faibles, vilains et puérils, la source auprès de laquelle elle plantait définitivement sa tente n'en serait pas moins limpide et pure. Pendant ces 15 jours, Mademoiselle Plouvel s'était ingéniée à réveiller dans l'âme de la jeune fille la foi au bien, l'horreur du découragement et l'amour de l'activité pour le perfectionnement de l'être moral. Sur le quai de la gare, au moment de son départ, elle lui disait encore ses pensées. « Que voulez-vous, ma pauvre Aliette? Les hommes sont laids, je vous le concède, mais qu'importe? Regardons au-dessus d'eux. » « Embrassez-moi, ma chérie, voici qu'on me crie de monter. »« Comment assez vous remercier? Comment vous dire toute ma reconnaissance ?»« Ah, si vous êtes reconnaissante, c'est moi qui dois vous adresser des actions de grâce, » répondit Mademoiselle Thérèse très sérieusement. « Mon Dieu, oui, c'est une qualité si rare chez cette aimable humanité que je suis très reconnaissante aux gens de m'être reconnaissant. Vous verrez qu'un jour vous serez de mon avis. » « Allons, adieu, je pars relativement tranquille, car vous êtes délivrée de votre mariage et je vous laisse dans une voie nette et déterminée. » « Elle serait encore plus déterminée si je partais avec vous. » « Hélas, pauvre enfant, Le devoir est une attache qu'on ne peut briser. Comptez toujours sur moi et sur vos cousins. » « Je voudrais être auprès d'eux, » répondit-elle avec ardeur. « Que sont tous mes succès auprès de cette vie simple et droite ?» Le train partit et Mademoiselle Plouvel éprouva un serrement de cœur en regardant jusqu'au dernier instant la fine silhouette d'Aliette dont l'attitude penchée et mélancolique était bien l'expression de tristesse poignante que, selon toutes les probabilités, l'avenir ne pourrait atténuer.